Jean-Mi.
Bonjour.
Bonjour Déby.
Bonjour.
C'était quoi dont tu pouvais me parler aujourd'hui?
Alors moi je voulais parler, tu m'as posé la question sur le monument du chaman, sur le rond-point à l'arrivée de l'aéroport. Pourquoi le chaman en Guyane? Bon, la symbolique du chaman, après ça c'est plus le milieu amérindien qui peut te l'expliquer, mais moi le pourquoi du chaman en Guyane, il faut savoir qu'en Guyane il y a six nations amérindiennes présentes, et c'était pas su vraiment ni à l'extérieur ni même au sein de la Guyane, c'était un petit peu, il n'y avait pas de représentativité vraiment. Donc l'idée du chaman, le chaman c'est un élément commun à toutes les nations amérindiennes, et donc le choix du chaman s'est imposé de lui-même. Et sur le rond-point, il y a la présence, quand on fait le tour du rond-point, on a les six nations qui sont représentées. Il y a six quartiers qui représentent les six nations de Guyane, donc avec le nom à chaque fois des nations. Ce qui fait que quelqu'un qui arrive a ce monument, et puis a aussi comme information le nom des six nations amérindiennes de Guyane.
Comment c'est venu l'idée de faire un chaman sur le rond-point? C'est une idée des Amérindiens, c'est une idée de qui?
Alors c'est une idée un peu collégiale, hein. On fait partie d'une association amérindienne. Et moi je trouvais que dans le paysage guyanais, la représentativité des Amérindiens n'était pas suffisante. Ils vivent un peu discrètement, hein. Ils cherchent pas trop à se faire voir. Le problème c'est qu'ils se prenaient des décisions en Guyane sans eux finalement, et des fois à leur détriment. Donc je trouvais que dans le paysage guyanais, c'était bien que, ici localement, mais aussi des gens de l'extérieur, voient que les Amérindiens sont là. Il y a eu deux idées en fait. L'idée de la visibilité des Amérindiens, c'est-à-dire qu'ils sont présents physiquement par ce chaman, et en même temps, un côté pédagogique un petit peu, de dire voilà, il y a les six nations qui sont représentées aussi, chacune sur chaque quartier du rond-point, s'il est divisé en six quartiers. Et donc cette idée, c'était aussi pour fédérer les Amérindiens, parce que les Amérindiens avaient des messages à faire passer, chacun de leur côté. Moi, je me suis aperçu que c'était le même message finalement, hein. Et donc que l'union faisant la force, comme on dit, ce monument fédérait en même temps les six nations, et donc donnait une impact plus grande à ce qu'ils pouvaient dire ou faire, quoi. Donc à des gens qui ont comme culture la chasse, la pêche, la bâtie, etc., il arrive une technologie, la télé, où on montre Internet, où on montre l'extérieur avec tous ses bons côtés, mais aussi tous ses mauvais côtés. Et ça, on n'explique pas forcément aux jeunes, attention, on n'a pas le mode d'emploi. Enfin, c'est livré sans mode d'emploi et c'est un petit peu dommage. Il faut savoir que quand même, ils ont un autre mode de fonctionnement, ils ont d'autres repères depuis des millénaires, hein. Et donc, amener quelque chose d'un seul coup comme ça, où on ne fonctionne pas avec les mêmes codes, ça peut créer des situations dommageables pour eux déjà, hein, en majorité, et puis des incompréhensions, des choses comme ça, quoi.
Parce que, par exemple, toi, Déby, tu m'as dit que tu venais d'où déjà?
Du Suriname.
Et qu'est-ce que tu en penses, en fait, de cette technologie qu'on a ramenée dans la forêt aux différentes ethnies, tout ça?
Bon, je pense que d'un côté c'est bien, mais d'un autre côté c'est pas bien, parce que comme il disait Jean-Michel, ça, pour certains peuples, ça détruit, ça les empêche de, ils oublient la culture, tout ça, quoi, les traditions, ça. Ils préfèrent ne plus aller chasser ou bien pêcher, ou ils achètent, donc voilà, c'est dommage.
Il n'y a pas de supermarché dans la forêt?
Non, il n'y a pas de supermarché, donc, puis en plus de ça, je pense que la télé, maintenant, même ceux qui sont en forêt, ils travaillent, donc ils travaillent avec, donc ils gagnent leur argent, donc ils n'ont plus le temps d'aller chasser, d'aller pêcher, donc ils achètent du poulet et puis ils mangent du poulet, donc voilà.
Et qu'est-ce que vous faites à manger en général dans la forêt? Moi je sais pas, moi je te rappelle que j'habite à Grenoble.
En général, ils vont pêcher, chasser, puis ils mangent le cassave. Donc le cassave c'est une tubercule qui pousse sous la terre, et puis qu'on sait bien, qu'on sait, c'est à terme, on va le chercher, puis on nettoie, puis on en fait une galette pour manger.
Quand vous n'avez pas chassé un animal dans la forêt, et du coup, vous faites comment?
Bon, on le mange le soir même, le lendemain, donc c'est fini, on a, donc, c'est mangé tout de suite.
Il y a des moyens, un petit peu, il y a le boucanage. En fait, on fume la viande sur un feu, à la fumée. Ça permet de la conserver un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que maintenant, de plus en plus, les groupes électrogènes font leur apparition un peu partout, même dans les communes isolées. Et donc, avec le groupe électrogène, des fois, il y a les moyens de conservation, frigo, choses comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'origine, c'est où c'était consommé directement. Parce que des fois, ce qui était prélevé, ce n'était pas grand-chose non plus. C'est quelques poissons, donc ça suffit pour manger au jour le jour. Mais quand il y a un gibier un peu plus gros, il y avait beaucoup le boucanage qui permet de fumer la viande et donc de la garder un peu plus longtemps.
Je pense qu'ils étaient obligés de partager.
Exactement.
Un peu.
C'est un peu effectivement aussi un mode de conservation dans le manger immédiat. C'est que quelqu'un qui chassait un gibier assez gros partageait avec toutes les familles, de manière à ce que ce soit, il n'y ait pas de gaspillage. Parce que dans ces communautés, il n'y a jamais ou quasiment jamais de gaspillage à l'origine. Maintenant, nous, on leur a appris le gaspillage avec la société de consommation, etc. De plus en plus, ils gaspillent. La difficulté d'aller manger, justement, ils savaient ce que c'était que d'aller chercher à manger ou de faire pousser quelque chose. Donc, il n'y avait pas de gaspillage.
Parce que toi, David, tu as connu avant qu'il y ait de la technologie dans la forêt ou pas?
J'ai connu un petit peu jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, on était en forêt et puis après, on est venu en ville. Donc, je n'ai pas vraiment connu, quoi.
Ça a rendu la culture amérindienne aussi individuelle que la culture métropolitaine.
Oui, je pense que oui. Ça les a rendus plus individuels, c'est chacun pour soi. Donc c'est, cette notion de partage n'y est plus, donc je trouve que c'est dommage.
Il y a encore aujourd'hui en Guyane des villages, les Amérindiens se battent pour conserver la notion de village, c'est-à-dire de terre communautaire, enfin de communauté de l'espace. Le village d'où est originaire Déby, il n'y a pas de clôture entre les maisons. Chacun sait où il est chez lui et il n'y a pas des barrières. Là, c'est chez moi, voilà. Donc ça, ils tiennent à le conserver parce que c'est un élément important de la culture amérindienne, la communauté de... Parce que par un autre côté, chacun gagne un peu ses sous maintenant, donc il y a ce côté-là qui est très européen, finalement, très pays industrialisé, où on fait attention à ce qu'on gagne difficilement, donc on le défend bec et ongle, et ça vient un petit peu, c'était pas le cas avant, chez le peuple amérindien, il y avait ce côté survie, on est obligé d'être ensemble pour survivre, donc on partage et on se défend ensemble, on affronte les choses ensemble, ce qui est beaucoup moins le cas, nous, dans nos sociétés modernes. Il y a quand même de l'entraide, un petit peu. On voit quand il y a des choses qui se passent, qui sont des catastrophes et tout ça, il y a tout de suite un élan de solidarité. Mais c'est plus la chose qui arrive à l'esprit de prime abord, quoi. On a un peu perdu ce côté-là. Et les Amérindiens en Guyane, ils tiennent à garder ces villages. Ils ne veulent pas que les villages deviennent des lotissements, par exemple. Ce que les mairies veulent, que ce soit un lotissement. Le village devient un lotissement, c'est plus facile à gérer pour les impôts, etc. Et c'est un petit peu un combat qui est mené actuellement.
Parce que même pour ces ethnies amérindiennes, il y a des impôts.
Si, ils payent des impôts, oui. Donc, même s'ils sont dans un village, ils payent des impôts, des taxes foncières.
L'ambiguïté, c'est que en fait, c'est une propriété communautaire, alors il n'y a pas de statut réellement dans les lois françaises qui qualifient la communauté de bien, ce qui fait que la loi française essaye justement de clarifier la situation en créant des parcelles, des lotissements, etc. Ce que les Amérindiens rejettent dans l'idée, alors aller à la France, de trouver de créer peut-être quelque chose qui n'existe pas encore et qui permettrait de... Alors là, actuellement, ils ont quand même découpé un peu le village, même si ça ne se voit pas concrètement, Et puis voilà, ils estiment qu'un tel a tant de surface, etc. Donc ils balancent un petit peu. Au début, ils ont essayé une taxation commune sur la surface du village global, découpée en tant de personnes qui vivent là. Bon, il y en a qui payaient, il y en a qui ne payaient pas, donc ça créait un peu les problèmes. Et puis là, après, ils ont essayé de cartographier le village, de dire voilà, lui, il a telle surface apparemment, donc on le taxe comme ça. Enfin bon, c'est un petit peu un casse-tête que les maires, les communes essayent de régler en faisant des lotissements en fait. Mais il y a une résistance, parce que c'est vrai que dans les villages, les enfants vont partout, enfin il y a une sécurité. C'est vrai que dans les villages, moi je note qu'il y a moins de délinquance qu'ailleurs. Hein, il y a une notion de protection, chacun protège l'autre, enfin, il y a une espèce de communauté encore quand même qui existe. Et c'est vrai que c'est difficile pour les gens de l'extérieur, des petits voyous de l'extérieur qui attaquent facilement dans les lotissements, des maisons individualisées, etc. Dans le village, ils s'y risquent pas vraiment parce qu'ils savent que, ben, en attaquant une personne ou une maison, ils attaquent le village en fait. Et c'est vrai que dans le village, hein, on a beaucoup moins de problèmes de vol, etc. Il y a un côté protecteur en même temps du fait que il y a quand même cet aspect communautaire qui subsiste.
Parce que le chaman qui est à Cayenne, en fait, c'est vraiment pour les Amérindiens une symbolique.
Il y a un côté comme ça, ouais. C'est vrai que ben, les peuples autochtones, hein, les peuples autochtones de Guyane, c'est les peuples amérindiens. Et nous, on n'est que des pièces rapportées hein, par la suite. L'esclavage a amené beaucoup ben, des communautés africaines. Et les Amérindiens, c'est vrai qu'ont été souvent les grands oubliés. C'est-à-dire que bon, les Européens sont arrivés comme en terre conquise, hein, un petit peu. Ils se sont battus d'ailleurs ici entre pays européens. Hein, les Français en Guyane française, mais à côté, c'est les Portugais au Brésil, les Hollandais au Suriname. Donc on voit que des pays européens se sont battus ici pour conquérir les terres qui étaient au départ aux Amérindiens. Enfin, sauf que on les a toujours un peu oubliés, enfin un peu pas pris en compte. Ça continue un peu aujourd'hui. Les Amérindiens ont souvent fui un petit peu le combat, enfin ont préféré aller se cacher dans la forêt, là où ils maîtrisaient les choses, plutôt que de. Et du coup, ils étaient un peu sans voix, sans apparence, un peu transparent, quoi. Et donc le monument du chaman. C'est un peu pour dire, voilà, il y a une terre amérindienne, sans le dire, sans rejeter personne, hein, mais pour quand même témoigner que les peuples autochtones, c'est les peuples premiers. Et c'est vrai que ce travail a fait qu'en Guyane, maintenant, c'est assez rentré dans l'idée des gens et dans les mœurs que les peuples autochtones, c'est les peuples amérindiens. Maintenant, on en parle comme ça, même pour des gens en Guyane qui auraient eu tendance à un moment donné à dire qu'eux, ils étaient chez eux, que voilà. Les métros, ce qu'on appelle les métros, les Européens, etc., eux, ça a été depuis le début, puisqu'ils sont venus en conquérant. Hein. Après, par la suite, il y a une espèce de recel de vol de terre fait par les Européens au départ. Et puis après, il y a dans la communauté créole, notamment, qui est arrivée par la suite par le biais de l'esclavage, etc., il y a une espèce de revendication.
Excuse-moi, par le biais de l'esclavage, tu peux m'expliquer un petit peu en deux mots?
Alors en deux mots, pendant longtemps, il y a eu ce qu'on appelle l'économie triangulaire. Enfin, c'est-à-dire que quand les pays européens ont découvert l'Amérique, hein, après Christophe Colomb, etc., il a fallu développer ces terres, hein, après s'être battu entre pays européens. Et donc il s'est instauré une économie basée sur l'esclavage. C'est-à-dire qu'en Afrique, des pays qui se battaient entre eux, etc., faisaient des prisonniers. Ces prisonniers, ils essayaient d'en les expulser le plus loin possible. Et il s'est trouvé que, à ce moment-là, les pays européens avaient besoin de main-d'œuvre bon marché. Ils sont descendus donc d'Europe, passés en Afrique, acheter des esclaves qui étaient en vente parce que c'était des prisonniers de conflits, on va dire, en Afrique. Cette main-d'œuvre était amenée sur les Antilles, sur l'Amérique, hein, que ce soit les Antilles, l'Amérique du Sud, etc. Et par différents pays européens, servaient de main-d'œuvre pour développer les pays. Et puis les bateaux repartaient en Europe en emmenant plus des produits qu'on ne trouvait pas en Europe, du piment, du poivre, enfin des ananas, enfin des choses comme ça. Et ça a fait comme ça, ça une espèce de circuit triangulaire avec ben, la traite d'êtres humains, hein, c'est vrai. Et moi, je trouvais que enfin, mon regard de l'extérieur, hein, paysage guyanais, les Amérindiens sont là, mais ils sont transparents, on ne les voit pas. Et je trouvais qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui les matérialise. Donc ça d'abord, la première idée. Ensuite, il fallait aussi, ce que je disais tout à l'heure, que toutes les nations amérindiennes de Guyane se retrouvent, même si à certains moments elles se sont fait la guerre, parce que c'est vrai que les Amérindiens c'était des guerriers aussi, hein, quelque part, et notamment il y a certains peuples amérindiens de Guyane qui se sont battus dans l'histoire, hein, qui se sont fait la guerre. Donc c'était aussi d'arriver à faire, de parler d'une seule voix un petit peu, de faire l'union fait la force. Enfin, voilà. Si tout le monde dit ouais, la Guyane, voilà, c'est notre terre ancestrale et tout ça, peut-être que de le dire ensemble, ça peut avoir une impact plus. Ça peut être pris plus au sérieux quoi, par les autres communautés. Et c'est un peu le cas, c'est un peu le cas. On a eu la chance d'avoir, bon, sans faire de politique, mais aussi sur le plan politique localement, quelqu'un qui a compris ça. Hein, parce qu'avant, c'était plutôt. Quelque chose qui allait dans le sens de la reprise de la Guyane par plus les communautés extérieures à la Guyane, hein, si on parle d'autochtonie, etc. Et donc il y avait la politique localement était plus axée comme ça, vers ça, pas vers le partage, mais bon, les Amérindiens on les oublie et nous on est là et voilà. Ça a tendance à, du fait de toute cette mise en place, le chaman notamment, et puis ça a permis d'inverser un peu la tendance, j'espère durablement, puisque maintenant je crois que les pas qui ont été faits là, a priori si on y veille, ce ne sera pas des pas faits en arrière par la suite. Quoi, hein, c'est le terrain qui est acquis là, ce qui a été conquis, c'est dans la reconnaissance, dans la connaissance, parce que la Guyane ne connaissait même pas sa population amérindienne. Donc maintenant, ça fait partie intégrante beaucoup plus maintenant.
Tu es d'accord aussi, Debbie, toujours.
Toujours. Donc, mon cher mari, compagnon et Jean-Michel, toujours sa philosophie. excellent.
En tout cas, merci à vous.
Ben, merci à toi d'être venu nous donner une voix aux Amérindiens de Guyane, hein, par la voix des gens. C'est un bon concept, c'est vraiment bien. Et j'espère que beaucoup de gens viendront vous écouter ce qu'on avait à dire. Et ça permet des échanges, et dans les échanges, ça permet de connaître. Ça, c'est un des effets positifs, on va dire, de la technologie. C'est de mettre les gens en relation pour avoir comme ça une espèce de corrélation à une échelle beaucoup plus grande, et des échanges entre les gens différents, mais qui finalement, on est tous des êtres humains, donc on cherche tous la même chose. Donc pourquoi se marcher dessus les uns les autres,
Vivre ensemble.
Le vivre ensemble.
Ben, je disais de vivre ensemble, hein, tout simplement. Ceux qui veulent choisir une vie autrement naturelle, qu'ils le fassent, qu'ils ne soient pas obligés de fonctionner comme la société maintenant veut qu'on fonctionne. Donc je parle surtout pour ma communauté amérindienne. Voilà.
C'est vrai qu'on n'a plus cette liberté de choisir son mode de vie. On a l'argent, hein, notamment. Moi, on tape encore sur l'argent, mais l'argent est nécessaire. Mais à partir du moment où on est esclave de l'argent, parce qu'on est obligé de fonctionner à une vitesse donnée pour pouvoir fonctionner, être dans la société, etc., c'est quand même. On devrait pouvoir choisir sa vitesse, la vitesse à laquelle on veut vivre, quoi, et avoir l'espace pour le faire. Voilà, simplement.
L'espace ici, il y en a beaucoup. Je vais essayer d'en visiter encore et je vous remercie encore une fois.
Surtout merci à toi, donc merci Jonathan, et puis merci pour ma communauté déjà, si les gens entendent parler de nous, donc merci à toi.
Merci d'être venu nous voir.
À bientôt. J'espère.
Allez, ici. Au plaisir.